I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 99 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, UFC Vegas 78, Hardier versus Luque. On va passer en revue les early prelims, les prelims et aussi la main card avec un gros focus sur pas mal de prospects. Il y avait beaucoup de prospects sur cette carte, beaucoup de jeunes. C'était vraiment intéressant sur certains points. On va passer ça en revue. Premier combat qui nous intéresse, Luana Santos, 23 ans, brésilienne, face à Juliana Miller. Luana Santos qui était à 5-1 à son entrée dans ce combat, avec une seule défaite au LFA, 23 ans la brésilienne. Mais ça sera Miller qui partira à la chasse directement sur Santos, qui la poussera contre la grille. Santos sera forcée de tourner, ce qu'elle fait plutôt pas mal, je trouve, hein, à cercler autour de son adversaire. Si elle reste en ligne, Miller utilise son range, arrive à connecter, ça peut être dangereux. Malgré tout, Santos réussit à gérer tant bien que mal la distance. Miller est quand même agressif, ça doit être dur à gérer. Depuis la grille, Santos connecte par contre son premier 1-2, et c'est ça qui fera reculer Miller. Miller se retrouve contre la grille et ça part sur un brawl à vraiment moche, j'ai envie de vous dire. Ça swing dans tous les sens, ça n'est pas beau. C'est divertissant, certes, mais il va falloir se calmer et revenir sur des bases vraiment plus propres. Et Santos, par contre, sera la première, justement, à se calmer. C'est ça qui m'a rassuré dans la game de la prospect de la brésilienne. Et elle commence à mieux timer ses attaques pour aller en contre-attaque. Et ça connecte, hein, sur les counters. Elle laisse plutôt Miller venir et elle la laisse brawler un peu, on va dire, salement, alors qu'elle, elle a juste à gérer à la distance, faire des lean back, des petits movements pour pouvoir connecter avec une directe derrière. C'est elle qui se retrouve, Santos, à pousser Miller contre la grille. Ça connecte du jab et des directs, ça commence à être difficile pour Miller. Santos recommence à swinger, hein, elle sent qu'il y a un petit peu de nervosité. Quand elle sent la faiblesse de son adversaire, forcément elle va aller pour le finish. Miller shoot un takedown vraiment du désespoir, mais se fait pogner en guillotine et se retrouve au sol et doit sortir de là en catastrophe. Par contre, Miller, bon, bah, elle mange jab après jab derrière en se relevant, parce que clairement elle était fatiguée, hein, comme je vous le disais. Ce takedown était une tentative un peu désespérée. Santos accélère contre la grille pour le finish et Herzog est obligé d'intervenir, l'arbitre, alors que les deux combattantes sont encore debout, hein, mais clairement Miller se faisait battered contre la grille. C'était chaud, beaucoup de damage sur sa face, et puis belle performance de Santos avec pas mal de choses à corriger quand même dans sa game, j'ai envie de le dire. Mais c'est une judoka, et puis elle le dit au micro, hein, de son interview, elle dit: ouais, je suis une judoka, mais je vais améliorer mon BJJ, mon striking. Clairement, il y a des détails à corriger dans le striking, comme je vous l'ai dit. Mais pas mal quand même comme début, 23 ans, première victoire, finition au premier round. Cool, voilà, je tenais à la mettre en avant parce que flyweight, et puis on a besoin de 109 comme d'habitude, même si chez les flyweight, chez les filles, ça se passe mieux, on va dire, ces dernières années. On prend des prospects, des nouveaux, et du 109, et des nouveaux talent. Bravo à Santos. Alors, j'ai pas forcément vu toute la carte, mais il y a eu quand même beaucoup de combats qui sont finis dans le premier round pendant ces early prelims. Par la suite, Damon Blackshear a fini José Johnson par soumission au premier round. Jacqueline Amorim a fini Conejo, le lapin. Mancera Ruiz, la mexicaine, s'est fait finir par Keo Tikeo en ground and pound dans le troisième round. Et j'aurais voulu voir ce que je n'ai pas vu, c'est la victoire de Martin Boudet. Encore une fois, je crois qu'il nous vient de Tchécoslovaquie, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un Slovaque, pardon, excusez-moi, Martin Boudet. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que bon, bah, lui, il vient des Contender Series. Il avait gagné son contrat, son ticket pour le UFC dans la saison 2021 au premier round face à Lorenzo Hood. Et depuis, bah, il est sur 4 combats gagnés d'affilée. Donc 4 victoires d'affilée. Chris Barnett, Lucas Bresky, Jack Collier et maintenant Josh Parisian qui mourra au premier round. Donc... Et quand même à surveiller malgré tout, parce que 4 victoires de suite, là, c'est quand même à souligner. On est chez les heavyweight, donc il y a quand même un peu de place peut-être en fin de classement pour lui, peut-être un classé pour le prochain, hein, parce que 4 victoires de suite, ça pourrait être intéressant. Bravo Slovaque, 13-1 maintenant, impressionnant. Bon après j'ai envie de vous dire chez les heavyweight, chez les non classés au UFC, je pense pas que ce soit la catégorie la plus compétitive, mais 4 victoires de suite et 5 si on compte les Contender Series, donnez-lui un classé, pourquoi pas. Pourquoi pas un classé ou alors pourquoi pas un Derek Lewis ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. En parlant d'intéressant, Isaac Dulgarian face à Francis Marshall. Alors lui, c'est le gars qui m'a impressionné, je pense, dans la soirée parce que bon, c'était son entrée dans l'UFC déjà. Et puis la façon dont il a gagné, son talent. Et puis il y a beaucoup de choses techniques à souligner de la part de l'Américain. Maintenant, 6-0 en pro. Et alors lui, je vous dis, une terreur au-dessus. Clairement une terreur au-dessus. On est chez les featherweight. Quelques échanges de low kick en début de round, mais c'est Dulgarian qui shoot le premier takedown. Et je vous rappelle que Francis Marshall est un lutteur de haute volée. C'est Dulgarian qui shoot le premier takedown. Il doit accompagner Marshall jusqu'à la grille. Mais bon, il avait un double leg qui était solide. Il a réussi à soulever Francis Marshall, le mettre au sol. Et là, on part pour quasiment 4 longues minutes de souffrance hein, pour Marshall. Lui qui aura résisté tant bien que mal aux premiers assauts de son adversaire. Grosse pression de son adversaire. Même dans sa garde complète, il subit la pression constante de Dulgarian. Comme je vous dis, gros problème au-dessus, ce mec. Marshall tient tant bien que mal Dulgarian proche de lui. Hein, évidemment, il veut briser sa posture, que son adversaire ne puisse pas se relever, ne puisse pas relever la tête pour limiter les mouvements, les attaques, le ground and pound, etc. Ce qu'il fait bien, hein, mais c'est clairement de la survie. Puis comme je vous dis, Dulgarian, c'est vraiment un animal, hein, surtout dans le premier round, lui qui finit souvent ses combats dans le premier round. Il commence avec des coups au corps aussi hein, pour travailler son adversaire. Je vous dis, c'est la panoplie qu'il avait au-dessus, dans la garde fermée de son adversaire. C'était vraiment impressionnant. Francis Marshall essaye de travailler son papillon, mais la pression que met Dulgarian dessus vraiment annihile tout ça. Dulgarian commence un peu à bouger comme il veut, il commence à se posturer sur ses pieds, à lever ses hanches pour essayer d'aller chercher justement de l'espace pour pouvoir passer du ground and pound. Il finira par passer en demi-garde, il va y arriver, et Marshall a eu une mini chance de se relever puisqu'il avait créé un tout petit peu d'espace pour aller chercher une escape, mais Dulgarian lui attrape la cheville, le fait tomber au sol et repasse par-dessus, vraiment facile, et là ça commence à être très compliqué pour Marshall, puisque les coudes et les strikes commencent à arriver au niveau de la face. Il s'est fait ouvrir ses oreilles de chou-fleur qui ont vraiment explosé. C'était dégueulasse, il y en avait partout. Et quand Dulgarian trouve sa posture droite et haute, alors là, c'est la catastrophe pour Marshall qui subit la furie du ground and pound de Dulgarian en dessous, alors que Dulgarian est en trois quarts, pas full mount, mais on va dire trois quarts de garde. Et ground and pound finish, voilà, je vous dis gros damage sur la face de Francis Marshall qui a subi vraiment une grosse furie dans la dernière minute, mais j'ai énormément aimé la grosse pression constante de Dulgarian pendant 4 minutes, parce que ça requiert beaucoup d'énergie hein, quand vous êtes dans la garde complète de votre adversaire pour essayer de lui pousser sur la face, vous relever, aller chercher une meilleure posture pour pouvoir aller chercher du ground and pound, etc. Gros charbonnage, travail très costaud de Dulgarian. À suivre chez les featherweight. Bravo à lui, c'était impressionnant. Puis un autre qui est intéressant aussi, c'est Terence McKinney. Hein, il ne faut pas l'enterrer. Certes, il avait perdu deux fois. Il s'est fait knock-out par Bonfim aussi. C'était impressionnant avec ce flying knee. Et il avait perdu le combat d'après, mais il a voulu rebondir et il l'a très bien fait face à Mike Breeden. Pardon. McKinney, vintage McKinney, classic performance de Terence McKinney, T-Rex, avec beaucoup de pression tout simplement au niveau des strikes et au niveau de l'anglaise. Pousser son adversaire contre la grille, bien gérer la distance, connecter du 1-2, ça a été très vite. 1 minute et 25, c'était terminé. L'arbitre a dû intervenir pour arrêter les assauts de Terence McKinney. Ça a été... il l'a fait paraître facile, mais je pense que... évidemment, il y a eu du travail, de la remise en question, etc. après les défaites, mais il n'y a pas tellement grand-chose qui a changé hein, dans sa game. Je veux dire, il faut qu'il ait confiance en son talent et ce qu'il a pu montrer encore une fois hier, samedi 12 août. Quand ça va bien, quoi. Il suffit d'avancer et de mettre sa pression comme il a su le faire auparavant dans les premiers rounds. Et puis ça marche, ça peut marcher encore. Ce kid est blindé de talent. Je pense qu'il peut aller loin. Certes, ça peut être avec un... Il y a eu des défaites et puis il en subira peut-être d'autres. Mais moi, j'ai confiance en ce gars-là parce qu'il a une base de lutte qui est vraiment bonne et a du feu dans les mains. Et il a encore du progrès à faire parce qu'il est jeune. Je pense qu'il n'a pas encore 30 ans. C'est un bon, clairement. C'est un bon. Et puis, chez les lightweights, c'est clair. C'est chaud comme catégorie. Il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Mais... il a du talent. Maintenant, 14-5, Terence McKinney. Belle victoire de T-Rex, l'Américain. Bravo à lui. Et puis, ça doit faire plaisir, évidemment, de retrouver la victoire après deux défaites de suite. Lui qui en avait gagné je ne sais plus combien d'affilée. Voilà. Toujours un beau prospect. Je pense qu'il peut se relancer. Maintenant, il lui faudra un adversaire peut-être un peu plus au-dessus. Intéressant, intéressant. Ah oui, puis derrière, encore une fois, Marcus McGee, lui qui a deux victoires maintenant, il me semble, de suite au UFC, deux finishes. La première fois, c'était au round 2, cette fois-ci, c'était au round 1 avec une droite directe qui arrivait pleine poire de JP Baez. Alors lui, JP Baez, son histoire, c'est quand il est rentré au UFC, il me semble qu'il en a perdu 3-4 de suite. C'est chaud, on est chez les Bantam en plus, c'est tendu. Marcus McGee, lui, par contre... on est chez Bantamweight, hein, je vous le dis, donc 135 livres, mais la patate de forain qu'il lui a envoyé, il l'a envoyé direct dans les ténèbres, c'était terminé pour JP Baez. Chaud, 8-1 maintenant, hein, Marcus McGee, ok, pas mal, 31 ans, vu qu'il a gagné vite, on pourrait le revoir vite, ça peut être intéressant aussi, bravo à lui, il clôturera. Ben c'est fait ce festival, au final, qui était les prélims, parce qu'on a eu que des finitions, quasiment. Que des finitions, en fait, il me semble. Ouais, que des finitions, donc que des finishes. Voilà, bravo les prélims, bravo les combattants pendant les prélims. Petite carte ben fofolle, en tout cas, pour les prélims. Et on va enchaîner avec la main card. Alors, je vais vous sauter les deux premiers combats et puis je vais passer directement à Poliana Viana face à Lasmin Lucindo. Alors, si je m'y intéresse, c'est parce que Lasmin Lucindo a 21 ans. 21 ans. Elle était déjà en pro. Hein. Elle était à 14-5. Quoi. Qui sont ces gens? Qui sont ces assassins qui, à 21 ans, ont déjà genre 20 combats pro de MMA sous la ceinture? Face à elle, Poliana Viana, une fan favorite, hein, elle est vraiment fun, hein, clairement elle a une personnalité assez fun. Elle qui d'ailleurs, je vais faire une toute petite aparté, un mini coup de gueule contre le UFC, encore une fois bien sûr. Elle voulait rentrer sur son walkout en cosplay de Naruto me semble-t-il, elle adore Naruto. Et elle voulait arriver en cosplay Naruto pour son walkout, pour arriver sur le ring, dans la cage. Et le UFC a tout simplement refusé. Et je trouve ça un peu cave parce que le MMA, c'est censé être un peu folklorique quand même, me semble-t-il, comme sport. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous regardez au Japon, à Pride, Rising, etc., les entrées, et puis Bellator aussi, les entrées peuvent être malades, et ça fait partie de la game, et ça fait partie du sport, et ça fait partie du marketing, du branding, de l'image du sport pro, et ça me manque un peu au UFC. Bon, quand on avait vu Easy, par exemple, faire son entrée de fou avec sa danse et tout, on a trippé, quoi. C'était cool. Et puis, The Undertaker aussi, c'était malade de Easy. D'ailleurs, j'allais dire, faire le parallèle avec le professional wrestling, WWE, AEW, etc. Le catch, comme on dirait en français de France, il est là. Il est clairement là. Et puis, le fait de prendre des éléments de ce sport et de les mettre dans le MMA, ça a toujours été là. Et puis, comme je vous le dis, si on revient au Japon, Pride, etc., il y a toujours eu des entrées de malades. Donc, voilà. C'est censé être fun, mais le UFC est une putain de corporation. Voilà, et ça fait chier des fois, et puis c'est pour des moments comme ça qu'on aimerait qu'il y ait un petit peu plus de relâchement de la part de la promotion. Voilà, ça c'était pour le mini coup de gueule. Et revenons au combat parce que y avait de quoi intéressant pour Lucindo parce que, comme je dis, 21 ans. Hein. Et je pense qu'il pourrait se passer des belles choses. Premier round, Poliana, par contre, elle est super vive avec un très beau combo pied-point en entrée de round, puis bodylock et amené au sol. Donc, c'était début parfait pour Poliana Viva. Il ne se passe pas grand-chose au sol. L'arbitre les relève. Et en plus, Lucindo était vraiment à l'aise sur son dos. Ça se voit dans la garde formée, elle était pas mal. Et par contre, c'est elle, Lucindo, qui passera un autre takedown en fin de round depuis la grille. Viana sera obligée... de la garder proche d'elle parce qu'elle était en dessous d'elle à se faire smasher dans sa demi-garde. Sa demi-garde n'a vraiment pas tenu et elle voulait pas se faire allumer. Donc ça s'arrête là-dessus pour le premier round. Deuxième round, énorme crochet du droit de Lucindo qui secoue Viana. Le knockdown était vraiment proche. Bizarrement, Lucindo ne va pas mettre de grosse pression derrière alors que clairement Viana était choquée. Lucindo reste patiente, elle rush pas, elle time ses attaques, Viana repart dans le clinch, très mauvaise idée. Lucindo est encore au-dessus à la demi-garde puisque c'est voilà, elle l'aura amené au sol assez facilement. Viana se retrouve dans la demi-garde, ça pue, clairement ça pue parce que là il y a le temps de travailler et elle travaille vraiment très bien. Lucindo, elle prend son temps, elle est patiente. Elle finira finalement par passer un arm triangle, elle va passer du bon côté pour finir. Et puis ça tape vite quoi, côté Poliana Viva. Donc c'est à dire que la pression devait vraiment être bonne, vraiment efficace pour Lucindo et victoire au UFC pour la jeune brésilienne. Bravo à elle, 21 ans, ça pareil, hein, on est chez les 115, donc c'est cool de voir ça, et bravo à elle. Et on enchaîne avec Khalil Roundtree. Alors oui, lui, j'en ai parlé depuis que je fais des podcasts, je parle de ce gars parce qu'il est impressionnant, il a fait un peu tout, il a fait un peu toutes les catégories, il a une histoire de vie qui est assez belle quand même parce que lui il a toujours un peu galéré hein. pour vous faire un tout petit peu de contexte, c'était un gars qui était roadie, donc qui accompagnait des groupes musicaux de hardcore, metal, etc. Enfin surtout hardcore sur la route. Il était obèse, il gagnait pas d'argent, il galérait à vivre dans des vannes et un jour il est rentré dans un gym de MMA et ça a changé sa vie. Aujourd'hui il en est à je pense 3-4 victoires de suite hein, parce que lui aussi il a un peu un record à la Rocky en Dancy on va dire, avec des défaites, des victoires mais il est apprécié par les fans pour être un artiste de la violence, j'ai envie de dire. C'est le gars qui va vous envoyer du ground and pound, vraiment genre quelques coups très violents, mais des coups de massue, qui va envoyer des kicks au sol légaux. Hein, c'est un des seuls qui le fait, quoi, puisqu'on peut pas envoyer, de kick dans la face, on n'est pas au Pride, pas de soccer kick, etc. Mais tu peux envoyer des kicks dans le ventre, etc., quand ton adversaire se lève, et puis lui, il le fait. Et c'est des coups de massue qu'il donne à chaque fois, et c'est impressionnant. Je pense aussi que ce qui a changé pour Khalil Roundtree, c'est... d'être parti en Thaïlande pour s'entraîner il y a plusieurs années. Ça a changé sa game un peu aussi, et puis son striking est devenu meilleur. Et ce que j'aime avec lui, c'est que même dans ce combat-là, on le voit, c'est qu'il paraît un peu nerveux dans son stance et dans sa garde et dans sa façon dont il bouge les mains, mais il paraît aussi très calme en même temps. Quand son adversaire va foncer sur lui, Khalil Roundtree va respecter le power, mais il va avancer, reculer, il va prendre son temps pour aller timer les attaques. Il lit le jeu de Dao Chaos, qui certes est un peu visible parce qu'il attaque en ligne, mais... Dao Chaos quand même, pas que des 1-2, il y a aussi des crochets qui passent, il essaye un petit peu de partir sur le côté pour aller chercher des angles, mais Khalil Roundtree gère très très bien les counters, et le premier counter qui passe sur Dao Chaos fait mal déjà. Tentative de single leg directement derrière de Dao Chaos sur Roundtree, avorté, et Khalil Roundtree prend le tie clinch contre la grille, et Dao Chaos a toute la misère du monde à sortir de ce fucking clinch de merde, parce que clairement, grosse force de Roundtree, et qui passe quelques genoux au passage. Dao Chaos arrive à le briser, on repart debout, beau head movement de Roundtree, Dao Chaos a un petit peu de mal, et il essaie toujours d'aller de l'avant, mais Roundtree lit très bien, encore une fois, la game de Dao Chaos, et puis le premier 1-2 de Khalil Rountree rend direct, plein de poids pour Daukaus qui se retrouve au sol, et puis les deux frappes de Grandin Pond qui nous met derrière, c'est son point par du plafond pour arriver vers le sol, clairement. On est avec des petits gants, hein. Et on est chez les light heavyweight. Donc même si vous vous mettez en tortue, que vous vous protégez en position fœtale avec les deux mains autour de la tête, Khalil Rountree arrive par-dessus ça, vous donne un coup de marteau, c'est... Voilà quoi, c'est fini quoi, c'est qu'une question d'en mettre un, deux ou trois, c'est une question d'unité là. On n'est plus sur genre, sur du temps, on est sur du nombre de strikes, et Khalil Rountree, généralement, il y en a moins de 5 hein, quand tu finis au sol. C'est l'histoire de 1, 2 ou 3. Et ça fait la particularité et la dangerosité de Khalil Rountree, c'est que si jamais vous allez au sol avec lui, bah, il ne veut pas forcément montrer son sol, aller chercher du jiu-jitsu, etc. Il va vous mettre 2-3 frappes et ça va vous sonner et l'arbitre va être obligé d'arrêter parce que la violence des coups et le potentiel de vous arracher la tête est là. Et l'arbitre va arrêter le combat, et c'est ce qu'il a fait contre Daukaus qui n'a absolument pas pu se relever. Hein. Il s'est pris 1-2 frappes derrière et c'était terminé. Quelle violence poétique de la part de Khalil Rountree. Si on devait aller chercher une définition de belle violence dans le MMA, Khalil Rountree serait là, il serait là-haut. Et c'est pour ça qu'on aime le regarder. Il disait qu'il était prêt pour un 5-rounder maintenant, en Octagon, dans l'interview dans la cage, après sa victoire, il disait « Je suis prêt pour aller chercher un main event. Je suis prêt pour aller chercher un main event pour quelqu'un qui est au-dessus de mon ranking, et puis pour un main event. » Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, parce que les fans l'aimeraient bien. Et puis, avec les cartes de merde qu'on a pu se taper cette année en UFC Fight Night ou whatever, là, pas en pay-per-view les autres, pourquoi pas. Peut-être pas en main, mais en co-main facile, man. Et là, il était en troisième combat avant le main. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi, je pense que c'est legit. Bravo à Khalil Rountree et puis 4 défaites d'affilée pour Chris Daukaus. Même s'il descend des heavyweight pour aller en light heavyweight, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Bravo Khalil Rountree. On passe au co-main event entre Cub Swanson et Min Hakim Dawodu, le Canadien. Ah, ce combat, encore une fois, un problème de scoring hein, et de décision des juges. Hein. De mon feeling, de ce que j'en ai vu sur Twitter, c'est que c'était pas la meilleure décision. C'est pas forcément un vol, mais je ne pense pas que ce fut la bonne décision qui ait été prise par les juges. Premier round, pas mal d'observations, hein, surtout pendant la première moitié. Malgré tout, je trouve que c'est Swanson qui entreprend un peu plus dans le premier. Par contre, Dawodu a l'air plus efficace dans les counters. Hein, c'est lui qui connecte plus. Les échanges sont pas si pires en fin de round, c'est sympa. On s'amuse un peu plus. Mais je pense que Dawodu est plus efficace sur le counter. Round 2, et là, c'est par contre, on change les rôles, c'est par contre Dawodu qui est plus entreprenant. C'est lui qui engage dans le striking, c'est lui qui varie les levels et les combinaisons. C'est lui aussi qui va aller pousser contre la grille, va aller essayer d'aller chercher un petit peu de genoux. Swanson commence à avancer un petit peu plus dans la deuxième moitié de round, mais Dawodu pousse encore la lutte contre la grille pour annihiler ça. Magnifique brawl hein, en fin de deuxième round entre les deux. Je ne sais pas si vous avez eu les clips, je vous conseille d'aller le voir parce que c'était pas mal pour les 10 dernières secondes. Beau brawl au milieu de la cage. Un round clairement pour Min Hakim, hein, le premier je pense aussi. Round 3 plus serré, hein, avec plus d'échanges de pieds-points des deux côtés, mais encore une fois, Dawodu pousse encore contre la grille, et puis quand on voit la face de Swanson, c'est clair que les dégâts étaient plus du côté de Dawodu. Swanson aussi subit dans la lutte, il a du mal. Dawodu, par contre, passera peut-être un ground shot qui cassera un peu le rythme du troisième round. Et évidemment, il y a un arrêt. Hein. On repart debout, bons échanges fun en striking, mais Swanson passera un takedown qui peut-être influencera aussi la décision des juges, et qui sera peut-être déterminant dans cette victoire de Cub Swanson. Clairement, Dawodu est dégoûté et Swanson est en train d'applaudir à la décision. Et puis, je pense qu'il anticipait que ce soit le nom de Hakim Dawodu qui soit cité. Et je pense qu'il était surpris quand il a entendu la décision de l'arbitre. Et Min Hakim était dégoûté. Je peux le comprendre parce que je pense que la victoire aurait pu aller pour lui. C'est dur pour Min Hakim, hein, c'est dur, et tant mieux pour Swanson, mais victoire un peu gratuite donnée. Voilà, à oublier, encore une fois, décision à oublier. Et on peut passer directement au main event, RDA versus Vicente Luque. Alors, allez, sur le global, ça va être facile, ça va aller être facile sur le global. Luque a gagné, oui, il a gagné. Clairement, il a gagné la décision unanime. Il a gagné sur le game plan. Il a gagné sur le fight IQ. Il a gagné sur beaucoup de choses. RDA n'a pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas s'il a très bien écouté son corner non plus. C'est bête parce qu'il avait la possibilité de gagner ce combat, je pense, s'il adaptait son game plan, s'il adaptait son jeu, ce qu'il n'a pas fait. Premier round de fighter entreprenant. Hein. Debout, c'est pas mal. Franchement, c'est plaisant à regarder. Les mouvements, les timings sont pas pires de chaque côté, avec un petit plus côté RDA. Je pense qu'il était aussi un petit peu plus au-dessus dans la lutte, mais au tout début. Parce que ça va très vite changer. Puis au final, ce sera un peu le fil rouge du combat. C'est Luque est plus fort en lutte et RDA va chercher de la lutte qu'il ne devrait pas aller chercher. Et il continuera bien trop. Au final, Vicente Luque arrive à pousser RDA contre la grille, à le mettre au sol, mais il se fait pogner dans une guillotine. Et il doit quand même bien se débattre hein, pour s'en sortir. Round assez serré. Round assez serré. Pas sûr encore, mais encore une fois, comme je vous dis, on commence à voir le fil rouge du combat, à savoir Luque plus fort en lutte et en grappling au final, hein, au général, face à RDA. Round 2, clairement, Luque impose sa lutte contre la grille, RDA ne s'en sort pas, et lutte pour ne pas trop se retrouver au sol, clairement. RDA doit plus se striker et ne pas lutter, hein, c'est ce que dira son corner à la fin du deuxième round, entre le deuxième et le troisième. Ils leur diront, arrête de lutter, va striker. Ils ont raison, parce que ça connecte plutôt pas mal pour RDA, et puis je pense qu'il est un poil au-dessus dans le striking face à Luque. Round 3, début avec pas mal de jabs de RDA, des middle kicks qui passent bien, mais il repart à la lutte contre la grille, erreur de game plan. Clairement, c'est Luque qui reste dominant contre la grille encore et encore. Et quand on repart au milieu, RDA est à l'aise dans le striking. Ça se bang plutôt pas mal bien au milieu, mais ça repart contre la grille et il se fait renverser. RDA et Luque se retrouve au sol, il est plus fort dans le grappling. Round 4, Luque encore dominant contre la grille, RDA se retrouve le cul par terre à plusieurs reprises, il a du mal à se relever, c'est compliqué, Luque est vraiment fort dans ce domaine-là. Hein. Et round 5, RDA sait qu'il doit le plus striker, il le fait. Mais c'est un peu tard, hein. Clairement, Luque, encore une fois, fait par les saluts contre la grille. RDA essaie de striker un peu, de changer le cours du jeu, mais on est dans le cinquième, c'est bien trop tard. Et Luque prendra la décision. C'est clairement, encore une fois, comme je vous disais, le fil rouge du combat. Pourquoi RDA est parti à la lutte alors qu'il gagnait dans le striking? C'est bête, parce qu'il y avait l'occasion de... Il y avait l'occasion peut-être de finir, hein, si ça se trouve, Luque. Bon, là, après, je fais un peu des plans sur la comète, mais au niveau du storytelling, si RDA gagnait contre Luque avec du striking, ben, ça l'aurait peut-être mis dans une bonne position pour la suite hein, chez les Welter. Et là, ça va être compliqué maintenant pour RDA. Ça va être compliqué, plus vraiment de run, 38 ans... il va se retrouver un peu encore derrière. Après le top 10, là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour la suite. Je sais que je fais un peu des plans sur la comète, hein, mais bon, chez les Welters, malgré tout, c'est le bordel. C'est une messe, comme disent les Anglais. Mais bon, pourquoi pas. Et là, ça va être compliqué avec cette défaite. Bravo à Luque, hein, qui lui a exécuté parfaitement le game plan. Il a fait ce qu'il fallait, et il l'a bien fait. Et il est fort là-dedans. Et bon, lui, par contre, ça lui fait une petite victoire sympa. Et puis, peut-être il va grimper une ou deux places hein, dans le classement. Je crois qu'il était à 8 chez les Welter. Maintenant, il va repasser peut-être à, je sais pas, 7, 6, 5. Who knows? En tout cas, voilà. Bravo à Luque. Lui, comme je vous dis, il a fait exactement ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les early prelims, je vous les conseille fortement parce que du finish, c'était le fun. Et surtout, Min est aussi, quel est le rentry, quoi. Waouh. Ça fait plaisir, hein, parce que chez les light heavyweight, c'est pas génial, clairement, hein, dans la KT, depuis des années, c'est pas terrible. Moi, je suis content pour Khalil Rountree, qui devrait rentrer dans le top 10, je pense, la semaine prochaine. et qui demande un main event dans une Fight Night. Pourquoi pas? La suite, très bientôt. On se reparle très vite. Le 12 août, c'est UFC 292. Je ne pourrai pas voir les combats en direct, mais je les regarderai le lendemain. Et puis, je ferai sûrement un podcast aussi. Merci à vous. Abonnez-vous sur Twitter, @guillotine514. Abonnez-vous sur Instagram, guillotine_podcast. Et surtout, abonnez-vous sur YouTube. Je mets des vidéos un petit peu plus souvent en ce moment. Puis, abonnez-vous aussi sur les plateformes préférées. Si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, pourquoi pas laisser un petit commentaire, une petite note, une petite étoile ou cinq, indépendamment de l'appréciation du podcast. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est vous qui écoutiez le podcast. Et merci à vous. On se reparle très bientôt. Ciao. At the end of the day, it is what it is.